Ma préférence, Irène Finkel.
Jacques Lavergne, bonjour. Bonjour.
Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie.
Voilà, nous allons parler, aborder nos rubriques habituelles. On va parler de restaurant, si notre restauratrice actuellement bloquée dans les bouchons finit par arriver. On parlera théâtre, on parlera littérature, bien sûr, séries, cinéma, comme d'habitude. C'est un menu que vous connaissez bien. C'est ma préférence et c'est parti.
Et je suis ravie de vous retrouver, Jacques.
Ah bien, écoutez, c'est un ravissement partagé, soyez, croyez-le bien. Eh bien, on va commencer par parler de théâtre, puisque Chloé est là.
Bonjour Chloé.
Bonjour
sourire.
À tous, bonjour.
Alors Chloé, que se passe-t-il sur les scènes toulousaines?
Alors, ben, encore plein de choses. Moi, je suis allée voir plein de pièces la semaine dernière et la semaine d'avant. Il y en a encore une qui joue encore cette semaine. Donc, je ne sais pas quand sera diffusée l'émission, mais vous avez à partir de ce soir jusqu'à samedi, Les Mousquetaires au Grenier Théâtre. C'est ma compagnie d'impro, mais c'est que les hommes. Moi, je n'y suis pas.
Ah, c'est normal, ça, qu'il n'y ait que des hommes.
Eh bien, ils ont décidé de faire leur projet entre eux. On les a enviés parce qu'on leur a vu, on les a vus. Ils se sont créés des costumes de mousquetaires. Ils se sont aussi fait des décors, tout ça. Ils se sont fait plaisir. Ils ont pris l'argent de la compagnie pour se faire leur spectacle. Et c'est franchement réussi. Moi, je l'ai vu samedi. Alors, ils ont carrément travaillé le langage de mousquetaires. Il y a des combats d'épée. Ils ont fait un stage avec un maître d'armes qui leur a appris le combat d'épée. Et bon, ils m'ont fait tester un petit peu. Je ne suis pas douée du tout, mais eux, ils sont vraiment impressionnants. On en a un peu peur même quand on est dans le public. On se dit ah, ils vont se toucher à un moment donné. D'ailleurs, ils ont mis des draps sur les premiers rangs pour que les gens soient vraiment protégés. Et du coup, c'est hyper impressionnant, très sympa, et ils sont à mourir de rire. Enfin, moi, je
alors,
suis
ils sont
fan.
Combien sur scène?
Ils sont quatre. Laurent Berthier.
Oui, pour des mousquetaires, ça me semble assez normal.
Alors, en fait, du coup, c'est pas les mousquetaires dont on connaît le nom, les plus connus, D'Artagnan, Porthos, Aramis, tout ça. Je voudrais pas me tromper dans le nom.
Non.
C'est ceux dont on n'a jamais entendu parler, justement. Et pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas raconté leurs exploits, alors que pourtant, ils en ont fait eux aussi.
Et donc, ils vont nous les raconter sur scène.
Exactement. Avec, bien sûr, des choix du public au départ. C'est un format long d'impro. Donc, ils nous posent des questions au début. Et après, ils commencent. Ils ont des costumes aussi de cardinal. Ils ont un costume du roi. Et c'est super beau à voir et super rigolo. Moi, ils m'ont fait pleurer de rire samedi dernier.
Alors, ce jour,
au Grenier Théâtre. Donc, toute cette semaine, c'est la dernière semaine, Les Mousquetaires, jusqu'à samedi, donc à 20h30.
Mais dans Les Mousquetaires, il y avait des femmes quand même, chez Alexandre Dumas.
Eh bien nous, on a essayé de s'incruster dans le projet, mais non, ils nous ont même caché les répétitions, on n'avait pas le droit de voir ce qui se passait.
Ça veut dire qu'on doit s'attendre à la réponse du berger à la bergère, et donc un spectacle uniquement de filles.
Ben exactement, c'est justement l'idée qu'on a. On est trois filles là, on en parle, on pensait à quelque chose, mais je ne dois rien divulguer pour l'instant.
Sinon, on vous écrira quelque chose.
L'idée est chouette.
Oui, ben, bien sûr, on avait envie de se faire plaisir nous aussi quand on les a vus. Et puis en plus, ça marche bien, le public adhère. Alors on ne savait pas trop les mousquetaires si ça allait. Et pour l'instant, enfin moi, quand j'étais dans la salle, en tout cas samedi, les gens riaient beaucoup et
bon,
y avait des très bons retours après. Ensuite, dans le même théâtre, parce que j'ai du mal à me détacher de ce théâtre, il est tellement chouette et c'est chaleureux l'ambiance, on peut y boire des coups aussi.
Ah bah alors
Je le dis jamais, et il y a même des petites assiettes. Hein. Eh bien, il y a le repas des fauves qui arrive, je ne sais pas si vous l'aviez vu cette pièce.
Mais vous avez joué dedans, Chloé, non?
Alors non, moi j'aimerais beaucoup y jouer dedans, mais là ils ont pris d'autres comédiens, mais bon, j'y suis toujours pas. Mais c'est du 9 au 18 mars, tous les soirs à 20h30 et le dimanche 13 mars à 16h. Et c'est une mise en scène de Francis Azéma, donc le directeur du Théâtre du Pavé. Je parle souvent de lui. Il joue dans la pièce. Et alors les comédiens...
Là, c'est Francis Azéma qui joue.
Il joue dedans,
oui. Il est venu nous parler et on a fait une heure d'émission sur son Jean Jaurès.
Ah oui.
Hein, puis il a tourné, ils vont le reprendre. Là, il l'avait tourné en film, c'est Francis Fourcault qui était derrière la caméra.
C'est vrai, j'ai entendu parler.
Mais ils vont le jouer sur, au théâtre, hein, parce que ce sont des textes
qui
sont très faciles à
adapter
au théâtre.
J'irai voir ça, c'est sûr. Oui. Ça fait un moment d'ailleurs qu'il faut que je retourne au Pavé. C'est un très beau théâtre aussi. Et là, donc le repas des fauves, c'est l'histoire. Alors, je l'ai vu il y a longtemps. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui fête un anniversaire dans un appartement en 1942. Ça se passe. Et en fait, en bas de l'immeuble, un officier allemand est tué, fusillé. Enfin, pas fusillé, tué. Et donc, du coup, il y a un autre officier allemand qui monte dans l'appartement, dans l'immeuble, et il essaie de savoir qui a tué. Et comme personne ne se dénonce, il demande à chaque appartement de donner deux personnes de chaque appartement qui seront fusillées. Et c'est un groupe d'amis qui fête un anniversaire, et donc ils vont devoir choisir parmi eux deux personnes qui vont être sacrifiées. Et
c'est pour ça que dans les anniversaires, il faut toujours inviter une des personnes qu'on n'aime pas. On va pouvoir livrer à la vindicte allemande ou autre.
Ça me fait tellement penser au film Le choix de Sophie.
Ah oui, je ne l'ai pas vu ce film.
Ah ben là, c'est
le même genre. C'est celui qui est tiré du livre de...
Ben, c'est, voilà, elle a un petit garçon, une petite fille, et on lui dit, ben, tu choisis de faire fusiller ton fils ou ta fille, tu nous donnes qui? Mais il faut que tu donnes un
des... Ce sont mais des en jeux fait, intellectuels quand même.
C'est un tel choix horrible, c'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent quand même à faire rire. Moi, je me souviens avoir ri. Quand même avec un sujet pareil, il y a de l'humour noir, de l'humour grinçant, et on rit et on est effrayé à la fois.
On a les nerfs qui poussent tellement loin.
C'est ça. Voilà. C'est un rire jaune, quoi. Mais c'était moi j'avais vraiment adoré cette pièce et ils la reprennent, donc je vais aller la revoir parce que il y a une amie à moi qui joue dedans qui s'appelle Angélique Infante. Je ne sais pas si vous connaissez cette comédienne. Elle est super. Elle a joué dans Le Dîner de cons qu'ils ont monté avec Denis Ré récemment. Je l'ai pas vue avec elle. Il y a donc aussi Denis Escadafals, Lorenzo Salvaggio, Claude Elias, Philippe Croc, Alexandra Ponce, Philippe Canizares, qui est un super comédien aussi que j'adore, et Francis Azéma, qui joue cette pièce mise en scène par Francis Azéma, que je vous conseille vivement. Ensuite... pour changer de lieu, il y a un seul en scène. Je vous avais parlé il y a quelque temps du seul en scène de Mélissa Billard.
Un one-man show, alors, c'est ça.
Oui, voilà. Alors, moi, j'aime bien dire seul en scène parce que c'est
pas... C'est juste pour montrer que je parlais anglais, c'est tout.
Non, mais alors, je sais pas vraiment toujours... Je dis peut-être pas le bon mot, mais pour moi, seul en scène, c'est pas forcément drôle. Et il peut y avoir de l'émotion dans un seul en scène. Et celui de Mélissa Billard, dont j'avais parlé, qui s'appelle Haut les cœurs, c'est au Studio 55. Celui-là, il peut même... Moi, il m'a mis les larmes aux yeux, vraiment. Et à la fois, on rigole beaucoup. Et là, j'en ai un. Alors, je dirais peut-être plutôt que c'est un one-woman show, celui-ci, que j'ai vu aussi, qui est donc celui de Fanny Wolf, une comédienne qui est arrivée ici en suivant l'amour, parce qu'elle était de Paris.
Oh là là, c'est romantique.
Oui. Et elle a un seul en scène qui s'appelle « Détendu ». Et alors, je vais vous faire le pitch. C'est Fanny Wolf a du mal à se détendre. Ça peut se comprendre. Sa vie est semée d'embûches. Elle est allergique à tout, fait des œdèmes pour tout et réussit même à attraper une angine par 40 degrés. Ne lui parlez pas de spa, de vacances ou de nouvelles thérapies, vous aggraveriez son cas. Même les gens zen la crispent. Cette pile électrique nous dévoile les improbables mais véridiques histoires de son quotidien. Parviendra-t-elle à se détendre? Une chose est sûre, elle vous détendra. Et donc, c'est une comédienne que je connais aussi sur Toulouse qui est vraiment... très drôle, elle a des mimiques hilarantes et elle est super attachante. C'est une petite pile de bonheur là et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle joue au 3T. Elle joue à plusieurs endroits, hein, mais là, la prochaine date, c'est le 17 mars au 3T, au Café Théâtre Les Minimes. Les 3T, je dis Les Minimes, c'est mon ancien Café Théâtre. C'est là où je travaillais avant.
Ne mélangeons pas de confusion.
Qui n'existe plus, qui est fermé. Là, c'est vraiment au 3T, Café Théâtre Les 3T, Détendu Fanny Wolf. Et j'en avais une dernière.
Oui, une petite dernière pour la route, merci.
Il y a tellement de choses, il faut faire un choix. Donc du 16 au 20 mars, à l'Escale de Tournefeuille, la compagnie du Grenier de Toulouse, dont je suis fan aussi depuis de nombreuses années, joue la pièce Irrésistible avec Pierre Matras et Céline Bernat. Céline Bernat, je ne connais pas cette comédienne, je vais la découvrir en allant voir Irrésistible. Et c'est une pièce sur le thème de la jalousie. C'est mis en scène par Stéphane Battle. Et il y a un bord de scène le jeudi 17 mars. C'est toujours chouette, les bords de scène. On peut poser plein de questions après, à l'issue de la représentation. Et voilà. Donc, c'est un couple qui va avoir une discussion sur la jalousie, puisque la femme du couple rencontre quelqu'un et juste comme ça, elle a, comment on dit, quand on s'entend très bien avec quelqu'un, une fusion, et son mari va lui poser plein de questions jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui ne lui plaisent pas forcément. À force de poser des questions, on obtient un peu ce qu'on cherche des fois. Et ça a l'air intéressant. Avec, de toute façon, quand il y a Pierre Matras, en général, c'est tout bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés.
En confiance. Bon, eh bien, merci de quelques belles sorties en prévision. Merci Chloé. On
avec
fait.
Plaisir.
Oui, ah, j'ai non,
oui, je voulais juste
rajouter. Lève le doigt comme à l'école.
Non, je voulais juste rajouter. Il y a du 8 au 19 mars, il y a l'angoisse du roi Salomon de Romain Gary, c'est avec Denis Ré au théâtre du Pavé.
Denis Ré.
Voilà, Denis Ré. Je pense qu'on peut le préciser.
Donc, et Romain Gary aussi.
Et Romain Gary. Donc je pense qu'on peut y aller. Et voilà.
Allez. Merci de
merci
la précision. On fait une première pause musicale. Détendre pour digérer les infos de nos amis. Alors moi, c'est ma pause, c'est moi qui l'ai choisi. Moi, je vais vous amener un peu dans le passé, je vais vous faire entendre une musique très particulière. C'est John Dowland qui l'a écrit, qui est un compositeur et un luthiste aussi. Alors, on ne sait pas s'il est né en Angleterre ou en Irlande. Ce qu'on sait, c'est qu'il est né en 1563 et mort le 19-20 février 1626. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est chanté par...
Surtout vous, Jacques.
Oui, merci, mais moi, ça va, je suis vert encore. C'est chanté par Hélène Diacon et son groupe qui s'appelle Come Again, qui a été... chanson qui a été écrite, alors ça, je regarde, parce qu'en 1653. Alors, on est toujours sur, avec John Dowland sur des chansons un peu douces, amères, typiques de cet homme qui cultivait de beaucoup un style extrêmement mélancolique. Vous allez pouvoir en juger. Thank you. Voilà, Jenna Giacone qui a revisité un peu la chanson de John Holland, une voix superbe, d'une grande pureté, et qui nous amène tout doucement à Irène Finkel, qui elle n'a pas une voix d'une grande pureté, mais on va quand même l'écouter. Et elle va nous parler de ce
cinéma, qui est sa comme
spécialité dans la maison, de cinéma, de la prochaine émission qu'elle nous concocte, et puis de ce qu'elle a vu ou de ce qui se passe au cinéma. Dites-nous tout, Irène, ne nous cachez rien surtout.
Alors si, je vais vous cacher des choses parce que exceptionnellement dans cette rubrique, je ne vais pas vous parler des sorties cinéma et pourtant il y en a énormément en ce moment puisque je vois 3 ou 4 films, si ce n'est 5 par semaine.
C'est très dur,
merci Jacques. Et non, mais pourquoi je ne vais pas vous parler de toutes ces sorties cinéma, c'est parce que enfin cette émission tant attendue sur le cinéma commencera le 17 mars, donc très prochainement, de 18 à 19h en direct. Et je ne la ferai pas toute seule, puisque j'aurai avec moi des chroniqueurs professionnels du cinéma, puisque je serai accompagnée de Vanessa Archambault, du Web Toulousain, de Joël Attard, des Fiches de Monsieur Cinéma, de Pascal Alquier, qui est spécialiste cinéma à la Dépêche, et puis également Louis-Marie Solaire qui est à Radio Présence. Donc on se retrouvera tous ensemble une fois par mois pour vous faire part de toutes les sorties cinéma et de vous faire part chacun de nos impressions. On pourra comparer ce qu'on a ressenti chacun sur les films puisqu'on n'a pas tous les mêmes ressentis. Et tant mieux, il y en a pour tous les goûts. Et puis on aura également des surprises dans cette émission puisqu'on aura des intervenants, que ce soit acteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs, plein de surprises dans cette émission qui sera mensuelle et qui devrait s'appeler tout simplement le 7, pour le 7e art, bien sûr. Voilà, donc je vous rappelle que la première aura lieu le 17 mars, en direct de 18 à 19h, et bien évidemment, puisque notre radio est une radio de podcast, on pourra la retrouver tout de suite après en podcast, et en rediffusion, j'imagine, dans le week-end. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et je suis quand même un tout petit peu obligée, mais très rapidement, de vous parler des Césars qui viennent d'avoir lieu. Donc je me tourne vers notre comédienne. Je ne sais pas si vous avez suivi
meilleure actrice Valérie Lemercier pour Aline.
Vous aviez vu Aline?
Oui, bien sûr. J'avais trop hâte de le voir.
C'est vrai. Alors, quelles ont été les impressions pour Aline?
Bien sûr, elle était super, Valérie Lemercier. Après, j'étais étonnée que ce ne soit pas la vraie voix de Céline Dion. J'avais été déçue pour ça. D'accord. Mais bon, après, la chanteuse qui reprend les chansons est excellente. Hein. C'est rien contre elle, mais c'est vrai qu'on quand on connaît Céline Dion, on est là, ah, c'est pas la même voix. Et puis le côté que Valérie Lemercier qui fait une enfant,
oui,
ça m'avait vraiment surprise au début, ça m'a un peu perturbée. Puis après, je m'y suis faite. Quand elle est ado, ça va, mais enfant, ça m'a...
Oui, alors c'est vrai que tout le monde a été très perturbé par ce passage, parce qu'une femme de presque 50 ans, enfin je ne sais pas exactement l'âge de Valérie Lemercier, mais je pense qu'elle a 50 ans, dans le rôle d'une petite fille de 4-5 ans, même en diminuant avec les effets spéciaux sa taille, c'est...
Oui, c'était étrange. Puis non,
c'est assez étrange, voilà, ça m'a un petit peu fait penser quand même au sketch quand elle faisait l'école des fans avec...
Oui, voilà, c'est vrai,
moi
aussi.
Oui, tout à fait. Oui, ben ça, elle sait très bien le faire.
Ça, elle sait très bien le faire. Alors, mais quand même, on peut reconnaître sa prestation scénique qui était exceptionnelle.
Les acteurs québécois aussi, c'était génial dedans.
Les acteurs québécois, notamment le rôle de sa maman, qui était formidable. Ça, c'était une très très bonne actrice.
Alors, juste, je vous coupe. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. Du coup, alors c'est Valérie Lemercier qui joue en fait Céline Dion jeune qui a 5 ans. Moi, j'ai pas vu le film.
C'est Céline Dion. Elle joue le rôle de Céline Dion, mais de la naissance de Céline Dion jusqu'à la fin du film.
Et ça va, c'est pas trop. Enfin, ils ont bien réussi leur coup.
Peu étrange. C'est bien fait,
c'est un peu étrange parce que faire passer une femme de 50 ans pour une petite fille de 4 ans.
Mais ça choque au regard.
Mais c'est vrai que pour par exemple, moi, je me suis dit que c'est pour ça quand ils se sont rencontrés avec René Charles, son fils peut-être. René, elle avait 12 ou 13 ans, et c'est vrai que s'ils avaient pris une actrice de 12 ou 13 ans pour jouer un coup de foot face à ce monsieur d'une cinquantaine d'années, c'est vrai que ça aurait été
encore plus choquant.
Peu plus choquant, et je pense qu'ils ont voulu éviter ça, je me suis dit ça, mais je parle à la place du réalisateur là, de la réalisatrice.
Alors on a également pour le rôle, enfin le meilleur acteur, c'est Benoît Magimel qui a eu qui a eu le César cette année, qui est un acteur exceptionnel. Le meilleur film, alors je ne vais pas tous les passer, mais évidemment je suis obligée de passer quand même le meilleur acteur, la meilleure actrice, le meilleur film et le meilleur réalisateur. Alors pour le meilleur film, ben bien sûr c'est Illusion perdue.
Qui a... Je l'avais pas vu celui-là.
Alors
pas
ça c'est, et je pense qu'il va ressortir en salle ou qu'il est déjà ressorti en salle pour ceux qui ont raté le premier train.
J'irai le voir.
Et comme il a eu le César, il va ressortir en salle. Ça se passe toujours comme ça. Et puis au niveau de la réalisation, alors le meilleur réalisateur c'est Léos Carax. Qui a été récompensé pour sa réalisation pour le film Annette. Vous l'aviez vu celui-ci parce que moi je ne l'ai pas vu.
Et non plus. Là j'ai du
Jacques peut-être.
Ah non, c'est moi le cinéma. Il y a très longtemps que je n'y vais plus.
Pourquoi, il va falloir que je vous sorte de votre grotte.
Peut-être. Je suis dans l'autre salle.
J'en ai même pas entendu parler. Je suis désolée.
Bon, mais voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce que j'avais à vous dire, mais c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui pour la chronique cinéma. Et je vais vous rappeler encore une fois que cette nouvelle émission avec tous les chroniqueurs spécialistes du cinéma sur la place toulousaine, l'émission s'appelle Le 7 et la première aura lieu le 17 mars de 18 à 19h en direct. Voilà Jacques.
Eh bien nous écouterons, on sera tous suspendus à vos lèvres à tous.
Mais je l'espère.
Ce sont des gens de grande qualité.
On va le faire dans la bonne humeur.
Je n'en doute pas. Bien, peut-être que le moment est venu d'écouter un autre morceau musical. Alors ça, c'est Tiffaine qui l'a choisi. Qu'est-ce que vous avez choisi, Tiffaine? Qu'est-ce que vous êtes allé nous chercher?
Alors moi, j'ai choisi un morceau du groupe Queen. Il faut savoir que j'ai une grande histoire d'amour avec ce groupe.
Ah ben alors, avec tout le groupe, bravo.
Quelle santé,
attendez,
oui,
on voit qu'elle est jeune.
Hein,
je ne vous raconterai pas
mes jeunes années, mais chacun son tour.
Non mais pourquoi se contenter d'une seule personne quand on peut en avoir quatre?
Oui, c'est sûr, vu comme ça.
Le polyamour, c'est nouveau.
Exactement.
C'est ce que disait Berlusconi d'ailleurs.
Et il faut savoir que j'ai découvert le groupe avec le film et ça m'a fait un effet, je vivais dans une grotte musicale et vraiment l'effet que ça m'a fait c'est j'étais tranquille dans une plaine, il y a quatre mecs avec des coupes de cheveux improbables qui sont arrivés, qui m'ont chopé par les bras, qui m'ont balancé dans un ravin, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai tourné la tête à gauche, il y avait Elvis Presley, j'ai tourné la tête à droite, il y avait Kurt Cobain, je me suis dit mais la musique c'est grave cool en fait. Voilà, c'est l'effet qui m'a fait Queen, ils ont une certaine liberté à laquelle j'aspirais à l'époque où je les ai découverts. Voilà. Et j'ai pris Hammer to Fall.
Allez, on l'écoute.
Qui joue beaucoup.
Bon, alors, le morceau étant passé de musique choisie par Tiffaine, un morceau qui nous
qui est plus très vivant, Jacques. Hein. Oui, je vous ai pas vu danser, mais le cœur y était.
Oui, oui, c'était la bonne batterie des années 80.
Quelque chose qui serait un peu rare, mais bon, ça peut arriver, il pleut. Allez, on va faire, on va parler un peu de télévision. On va écouter la chronique de notre ami Grégory Com, qui va nous parler de ses séries, puisque c'est notre grand spécialiste de séries.
Mais là, je pense que vous allez avoir une surprise sur cette chronique. Alors, vous devriez l'écouter avec grande attention.
Ah mais je les écoute toutes avec attention. On écoute Grégory.
Merci à Grégory.
Chère Irène, aujourd'hui j'ai voulu mettre un coup de projecteur et pour une fois je vais être un petit peu plus sérieux. Coup de projecteur sur une série ukrainienne qui s'appelle Serviteur du peuple. Vous le savez, notre belle ville de Toulouse est jumelée avec Kiev. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, pays européen, nos voisins, est juste inadmissible et dramatique. Et à mon tout petit niveau, je voulais mettre en lumière cette série télé que vous pouvez retrouver. Donc, c'est la série télé Serviteur du peuple que vous pouvez retrouver sur arte.fr. D'ailleurs, allez souvent sur arte.fr. Il y a plein de séries, plein de films, plein de documentaires gratuitement mis à disposition de très grande qualité. Donc, cette série télé que j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus en prime time, hein, comme quoi, au lieu de mettre toujours des choses américaines, on pourrait mettre un peu en lumière des productions européennes qui, en fait, a vu révéler, vous entendez parler en ce moment, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Parce que oui, Volodymyr Zelensky, avant tout, avant d'être président ukrainien, avant d'être chef de guerre aujourd'hui, résistant à une oppression sans bornes, c'est un acteur, et un acteur plutôt comique, et qui a accédé au poste le plus important de son pays. C'est comme si nous, demain, les gens du Palmachot ou Jean Dujardin devenaient président de la République. Alors en plus, Serviteur du peuple, c'est particulier, c'est une série, donc télévisée ukrainienne, comique et politique, et vous allez voir, très fine, produite par le studio Kvartal 95, il y a 3 saisons complètes. Et alors, c'est là où c'est particulier, le sujet est assez proche de la réalité, c'est en fait l'histoire d'un simple prof d'histoire qui, suite à un quiproquo, un buzz sur Internet, va se retrouver président de l'Ukraine. Et donc, ce professeur d'histoire est joué par Volodymyr Zelensky. Alors, je ne vous en parle pas uniquement pour mettre en avant cette production ukrainienne, déjà de base j'aurais pu faire pour ça, mais parce que c'est excellent. C'est excellent. C'est-à-dire que c'est une série qui arrive avec une très grande justesse et beaucoup d'humour, parce qu'on rigole en regardant cette série, à être en fait un mélange de House of Cards et de séries un petit peu plus comiques ou loufoques. Il va nous décrire en fait le pouvoir en Ukraine, la corruption qu'il y a, et il y a de la corruption en Ukraine, certains diraient comme dans tout pays, mais il y en a, ce qui ne marche pas, et quelque chose qui va nous toucher à tous, parfois, le mépris qu'ont certains politiques envers les gens tout simplement du peuple, et le fait que c'est une élite, toujours la même, qui se renouvelle entre elles à la tête d'un pays, sans prendre en compte les besoins des gens du quotidien. Et c'est particulièrement bien fait. Donc cette série qui se découpe en 3 saisons, va nous montrer l'élection de ce professeur d'histoire, sa montée en puissance aussi, et ce qu'il va amener avec sa vision différente. Et je voulais vous en parler parce que franchement, je pense qu'il faut regarder cette série car elle est excellente, mais aussi parce que cette série a permis à Volodymyr Zelensky de se lancer en politique après. D'ailleurs, son parti était le parti Serviteur du peuple, et qui montre que les idées, ce qu'il a dénoncé dans cette série, ont touché le peuple ukrainien, puisqu'il a été très largement élu, à 73,2% dans la réalité. Voilà, c'est toujours un peu dur de faire la différence entre la série et la réalité. Donc, regarder cette série, c'est aussi comprendre un peu mieux le peuple ukrainien, ce qu'ils ont vécu, et pourquoi ils ont voulu élire un homme comme Volodymyr Zelensky, pourquoi aujourd'hui, dans un moment tragique de leur histoire, ils le suivent malgré tout et ils l'apprécient. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous spoiler, parce qu'il y a quand même des choses, des petits retournements de situation vraiment sympathiques. Je peux vous dire que ça. Allez sur arte.fr, regardez cette série. D'un, vous allez passer un bon moment. Et deux, je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on veut réécrire l'histoire, qu'on veut réécrire l'histoire d'Ukraine, avoir un petit peu ce focus sur qui est et qu'est-ce qu'a porté Volodymyr Zelensky est plutôt d'utilité publique. Et encore une fois, cette chronique, je la dédie à tout le peuple ukrainien qui souffre aujourd'hui et que j'espère aura tout le soutien nécessaire de l'Union européenne. C'est à ça que cette union et que nos impôts sont censés servir. Je vous remercie.
Voilà, c'était notre ami Grégory qui nous a parlé finalement d'une série tout à fait d'actualité, à part que le président Zelensky aujourd'hui est en train de jouer une autre partition et il a bien sûr notre soutien moral comme tout le peuple ukrainien. Alors nous aurons peut-être au téléphone, vous savez que c'est la période des vacances, donc tout le monde est en vacances, on essaye de les joindre au téléphone, c'est très, très mal commode, mais moi je vais vous parler d'un livre et peut-être que tout à l'heure... notre ami Pascal Sabatier, si on arrive à l'avoir en ligne, nous en parlera d'un autre. Moi, je vais vous parler de dehors.
Je suis là, Jacques.
Voilà.
Voilà, bonsoir Pascal.
Cher Pascal.
Bonsoir Jacques, c'est bien bonsoir Irène. Je suis désolée, j'ai un problème de connexion avec mon portable.
Ce n'est pas grave, on vous a, mais puisque j'ai commencé...
Même le téléphone est en vacances alors, Pascal.
Je vais finir, Pascal, puisque j'ai commencé. Je vais vous parler d'un livre que vous n'avez peut-être pas lu, mais je vous l'ai recommandé à la lecture récemment. Ça s'appelle Dehors la tempête, c'est de Clément Clémentine Mélois, ça a été publié chez Grasset, puis ensuite chez Point, et c'est une série d'essais littéraires. Clémentine Mélois, qui a d'excellentes lectures, eh bien, nous fait des allers-retours entre la vie des personnages et la sienne, elle fait des parallèles, elle nous fait pénétrer au plus près d'une expérience qui est personnelle mais aussi universelle, c'est la lecture. Et donc ces souvenirs et ces sensations des fictions deviennent un peu les nôtres, surtout quand on a lu les mêmes livres, ce qui était mon cas. Donc finalement, je m'y retrouvais parfaitement bien. Et alors, c'est un peu comme si, venu de notre petit monde, nous étions entrés dans un pays beaucoup plus vaste, pourtant familier. Pendant que dehors soufflent les tempêtes, nous, nous vivons dans les livres. C'est le cas aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes, Pascal, mais je peux vous dire qu'à Toulouse, il pleut énormément et qu'il vaut mieux être dans un livre que sous la pluie. Alors, c'est un ouvrage qui est tendre, qui est plein d'humour. Et puis, Dehors la tempête nous rappelle que la vie dans les livres est la plus savoureuse de toutes. C'est un livre qui a beaucoup de charme, de culture, de retour à notre enfance. Donc, c'est un vrai bonheur de lecture. Je vous rappelle, Clémentine Mélois, Dehors la tempête, Point ou Grasset, à votre choix. Voilà, à vous, Pascal.
Alors, moi, je vous appelle de l'Aude, où il pleut aussi.
C'est rassurant.
Voilà.
Pas la peine d'aller en vacances pour prendre la pluie. Hein.
Voilà, bon, il a fait beau jusqu'à présent, donc je n'ai pas à me plaindre. Et donc, je retiens votre conseil, Jacques. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Polar, comme promis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit que je parlerais d'un petit polar de derrière les fagots.
Oui,
c'est le moment de passer à la casserole.
Oui, oui, je me souviens très, très bien. Je connais un tout petit peu l'auteur.
Voilà, donc... Je vais vous parler des polars un peu en général parce que c'est quand même un genre qui a le vent en poupe, qui s'est beaucoup développé, beaucoup diversifié ces dernières années, si bien que dans ma bibliothèque, je lui ai fait un rayon tout à fait personnel, le rayon polar. Il y a des lecteurs qui ne lisent que ça et actuellement, ça fait partie de la moitié de mes acquisitions. Donc c'est pour vous dire le succès qu'a ce genre-là. Alors par polar, ben, on désigne... déjà d'entrée, le roman policier que je vais qualifier de classique, où il y a un meurtre et une enquête policière ou détective privé, souvent avec un héros récurrent comme Maigret chez Simenon, Adamsberg chez Vargas, Wallander chez Mankell, enfin vous en connaissez sûrement beaucoup d'autres. Ensuite il y a le thriller plutôt psychologique, type Les apparences de Gillian Flynn par exemple, qui a été adapté au cinéma sous le titre de Gone Girl, ou La fille du train d'un autre auteur anglais. C'est un genre plutôt écrit par des femmes, effectivement. Il n'y a pas forcément de feutre, de meurtre, parfois des disparitions, et il y a très souvent une manipulation de la part d'un des protagonistes. Et enfin, en troisième sous-genre, mais bon, moi je le classe avec le polar, mais bon, c'est pas forcément du polar, c'est le roman noir. Il y a très souvent une histoire policière, mais qui va se greffer sur une histoire sociale avec des personnages au destin assez sombre et qui, en général, finissent très mal. Donc, le premier livre dont je vais vous parler ce soir, c'est le dernier roman de Jacques Lavergne, donc, qui s'appelle « Échec et meurtre » et qui est édité aux éditions du Cairn dans la collection du Noir au Sud. Bon, ce roman a pour cadre la Camargue, comme le précédent. Et dans cette Camargue, on retrouve le cadavre d'un homme qui est vidé complètement de son sang et accroché à la croix d'un calvaire. Vous savez, ces calvaires qu'on trouve dans les campagnes françaises et souvent au croisement de plusieurs routes. Et là, c'est dans la campagne camarguaise.
Il n'y a que Jacques pour écrire un truc pareil.
Oh, il y en a bien d'autres qui ont écrit. Et certainement bien mieux, mais bon.
Donc, l'homme est vécu... C'est pas fini. L'homme est vêtu d'une blouse blanche. Il porte un stéthoscope autour du cou. Donc on se dit très vite qu'il s'agit d'un médecin. Et il va s'avérer que c'est un médecin qui est très connu dans le secteur. Donc l'enquête commence et la police n'est pas au bout de ses surprises. Et vous non plus, parce que je ne vous raconterai pas plus que ça de l'histoire. Je vous ai juste situé le cadre. Donc, selon les classements que j'ai faits, Échec et meurtre se range à peu près, enfin, dans les policiers classiques, je vais dire, parce qu'il est question de meurtre, bien sordide, comme vous avez pu le voir, et d'une enquête. Mais le talent et le travail de Jacques ont fait qu'il a réussi à pas mal renouveler le genre. Et je vais m'expliquer.
Ne le flattez pas trop.
Bon, j'ai déjà mes chevilles qui
me... Non, parce qu'après, il est insupportable.
Je vais aller jusqu'au bout de mon avis, qui n'est que le mien, mais bon. Alors que beaucoup d'auteurs de polar, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont un héros récurrent, une vedette, entre guillemets, qu'on retrouve à chaque épisode, Jacques Lavergne, lui, il a choisi de confier la quête à une équipe. Et il y a beaucoup de personnages. J'avoue que dans le premier roman, j'avais un peu de mal à m'y retrouver, mais dans celui-là, alors peut-être qu'il est écrit autrement, je ne sais pas trop l'expliquer, on est de suite rentré dans cette équipe. Alors c'est une équipe de policiers, on en connaît la hiérarchie, on sait que le commandant c'est Fabien, et puis il y a sa seconde, plus les autres, mais on a l'impression qu'aucun membre ne fait de l'ombre à l'autre. On perçoit la solidarité qu'il y a entre eux, leurs besoins les uns des autres, la tension qui se porte. Ils s'entraident, ils se préservent. Et en tant que lecteur, au bout d'un moment, on a vraiment l'impression de faire partie de cette équipe. Alors on se met à chercher, évidemment, puisque l'intrigue est très alambiquée. Elle est bien ficelée. Il faut lire un peu entre les lignes. Et plus on avance, plus les taux se resserrent. On est pris par cette histoire, on navigue en eau trouble, voire très trouble parfois. En l'occurrence, là, c'est le milieu médical et la peinture qu'en fait Jacques Lavergne est sans concession. Alors là, franchement, les médecins en prennent quand même pas mal pour leur grade. Les égos, les batailles d'égo, le fonctionnement des cliniques privées, c'est documenté, c'est bien traité. Donc franchement, on est là-dedans. On le lit avec grand plaisir, on est pris par l'intrigue, on avance, et puis on arrive à la fin en se disant, bah, il y aura sûrement une suite. Voilà, donc Jacques, au boulot.
Bien, le boulot est terminé. Alors merci déjà de cette belle critique. On a éteint toutes les lumières dans le studio tellement je suis rouge. Je l'illumine, mes joues l'illuminent. Simplement, ce n'est pas mon dernier, puisque j'ai écrit une trilogie. C'était la saison 2. La saison 3 sera dans les bacs sous une semaine et ça s'appelle Le Sceau du Diable. Donc, effectivement, c'est la suite de
D'accord,
la saison 2.
Il sort très bientôt, alors.
Ah, il est même, je crois, en cours d'installation et en cours de livraison.
Alors,
chez
Pascal,
les
au boulot, là.
Voilà, Pascal, vous allez pouvoir repartir avec mon équipe et vous allez voir, il va se passer des choses comme toujours.
Quand je l'aurai reçu.
Non, puis je viendrai vous le porter en même propre, ma chère.
Moi, j'ai une suggestion pour un prochain roman. C'est quitte à critiquer le milieu médical, autant parler d'Orpéa, non?
Oh là, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais non, ça ferait un peu trop tarte à la crème. Merci en tout cas de cette belle
Pascal,
critique, d'avoir lu mon livre. Est-ce que vous vouliez nous parler de notre ouvrage ou...
Alors, si on reste dans le polar, j'en ai un deuxième dont je vais vous parler, qui est d'un genre complètement différent. C'est une autrice, j'arrive pas à m'y faire, britannique Lisa Jewell. Il est édité chez Hauteville Édition et il s'intitule « Je serai ton ombre ». Alors là, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, on est dans une histoire de famille qui a été mariée à Véroan depuis 30 ans. Alors lui est pédopsychiatre, elle a arrêté de travailler pour élever leurs deux enfants. Et ce couple de Londoniens assez aisés, qui donne une bonne impression, a dans la réalité pas mal de problèmes. Et depuis quelque temps, Kate soupçonne Rowan de la tromper. Rien de bien original, elle se met à les piller. Et un soir, leur fille rentre du lycée, complètement affolée. Elle a été suivie, il lui semble, par le voisin d'en face, qui est un célibataire un peu bizarroïde. Et depuis quelque temps, il se trouve qu'il y a des agressions sexuelles qui se répètent dans le quartier. Tout ça s'alimente à la psychose, jusqu'au jour où, la nuit de la Saint-Valentin, une jeune fille disparaît. Cette jeune fille s'appelle Saphir, et il se trouve que c'est une ancienne patiente du pédopsychiatre Rowan. Alors, immédiatement, les soupçons se portent sur ce voisin bizarre. En plus, il est professeur, et il vient d'être mis à pied pour comportement inapproprié vis-à-vis de jeunes filles qui l'ont dénoncé. Bref, il est le coupable idéal. Mais est-ce que c'est vraiment lui le coupable? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Saphir? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a été séquestrée? En fait, c'est à toutes ces questions qu'il va falloir répondre, le temps étant compté, puisque effectivement, on n'a retrouvé aucun corps, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors c'est un très bon thriller dans le genre psychologique, le suspense est continu, savamment orchestré, puisqu'on a le point de vue de Kate et de Saphir jusqu'à sa disparition, après on n'en entend plus parler. Évidemment, personne n'est tout à fait clair dans cette histoire, vous en doutez bien, et on en vient à soupçonner, pas tout le monde, mais presque. Mais tout est fait pour qu'on tourne les pages à toute vitesse, et ça marche. Le bouquin est dévoré en quelques heures, on est happé dès les premières lignes, et on ne le lâche plus. Alors, certains vont le qualifier, ils qualifient même ce genre de façon assez condescendante, à mon avis, de polar domestique, style polar pour mes mères. Moi, je dirais simplement que c'est un excellent roman de détente. Et puis, sans se prendre la tête, on a besoin d'en lire parfois, surtout en ce moment. Voilà, un petit bonbon anglais, ça fait du bien. Voilà pour aujourd'hui.
Merci, merci Pascal. Bon, on va vous souhaiter beaucoup, d'excellentes Pascal. Vacances, en espérant que le temps se remette. Il semblerait que
ça se termine et on espère que le temps va se remettre aussi, jusqu'à, au moins jusqu'à ce week-end. Après. Le boulot reprend, donc. Et puis bon, comme vous le disiez, on a de très bonnes lectures. Là, je suis dans la rentrée littéraire, il y a des pépites qui sont sorties, je vous en parle la prochaine fois.
Allez, merci Pascal, bonne fin de vacances,
jours,
à bientôt.
Dans 15 jours.
Au revoir.
Au revoir Jacques, au revoir Irène, à bientôt.
Au revoir.
On écoute un peu de musique.
Et oui, c'est à mon tour. C'est à mon tour de vous faire part de mon choix. Alors mon choix, c'est tout le contraire de ce qu'on vit en ce moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce choix. J'ai choisi de vous faire écouter L'été de Vivaldi, tout simplement. Alors pourquoi ce choix? Parce que j'avais envie que dans ma chanson, il y ait un mot qui soit l'inverse de ce qu'on vit en ce moment. Alors, je ne parle pas que de la saison, bien sûr. Je ne parle pas de la pluie aujourd'hui. Je ne parle pas de la morosité ambiante. J'avais envie d'écouter quelque chose de beau, quelque chose qui s'appelle l'été. Et forcément, c'est Vivaldi. On écoute. Ça fait
voilà.
du bien.
Oui, ça fait du bien.
Voilà,
c'est l'été
on a besoin de
Vivaldi,
ça.
Mais avec vous, Irène, c'est toujours l'été quand on est avec vous.
Oh là là, merci.
C'est un compliment aujourd'hui.
La croix sur la cheminée pour marquer.
Voilà, nous attendions en plateau Maria de Atola, de notre restaurant. Alors, il semblerait
notre cantinière.
Que... Oui, quasiment, mais bon, le restaurant va bien au-delà de la cantine.
Oh, oui, largement.
Il fait une très bonne cuisine. Il est situé à l'hostal d'Occitanie, rue Malcousina. Alors, c'est vrai qu'il faut y arriver.
Au 11.
11 rue Malcousina. Nous sommes en plein cœur de ville, mais la rue est un peu étroite. Il ne faut pas hésiter à s'y engager.
Dans un très bel hôtel particulier.
Oui, du 16e et du 17e, dont la cour, d'ailleurs, a été massacrée par les services municipaux. Mais bon, on
ça,
peut
c'est
pas...
notre cuisine interne, Jacques.
Oui, non, mais il faut le dire. Quand il y a de l'incompétence, il ne faut pas hésiter à la souligner. C'est scandaleux. Mais bon, ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Mais du restaurant Atola et de Maria qui préside aux destinées de ce restaurant, mais qui là est en cuisine parce qu'elle est arrivée tellement tard qu'elle n'a pas eu le temps de monter en studio. Donc je vous conseille de venir y manger. Pourquoi y manger ? Ben d'abord parce qu'elle fait une excellente cuisine, une cuisine toujours à base de produits frais, avec une carte qui est réduite, mais justement parce que l'on va travailler tous les jours des produits frais, des produits différents. Et puis le soir... ça va être une toute autre ambiance, ça va être des tapas. Hein. Maria, comme son nom ne l'indique pas, est andalouse, donc elle sait faire une variété incroyable de tapas qui sont absolument délicieux, personnellement.
Est-ce qu'elle fait toujours la paella le jeudi ?
Ah, et le jeudi, il faut le dire, oui,
il
le
faut
jeudi,
le préciser.
Nous avons paella tous les jeudis midi.
Et des paellas différentes, voilà. Hein, il faut aussi le préciser.
Et aussi la fameuse paella à l'encre de sèche.
Absolument.
Donc voilà, on est un peu noir quand on sort du restaurant, moins les lèvres, mais c'est tout à fait somptueux. Donc si vous avez l'occasion de passer par la place Esquirol vers midi, allez jusqu'à la rue Malcousina, vous prenez ce qui n'est pas la rue Saint-Robe encore, comme le Croix-Trot de
oui,
Toulousain, qui est la rue des Changes.
En descendant,
voilà,
ouais,
et 50 mètres après, sur la gauche, une petite rue étroite qui va s'élargir. Vous verrez un grand hôtel particulier, vous passez la porte et vous serez au restaurant Atola. Et écoutez, venez, vous jugerez par vous-même, mais je suis absolument certain que vous repartirez content et pas déçu du tout.
Je confirme.
Voilà.
Et je confirme également.
Pour donner un petit repère, c'est la rue qui a juste après un magasin qui s'appelle Emma. C'est un grand truc, rouge. Et en fait, c'est une petite rue. C'est juste après le Emma à gauche.
Donc, voilà,
ne peut
c'est
pas
un magasin
manquer,
qui
la
fait
rue
l'angle.
Là.
Pour
on
ceux
ne
qui
peut
donnent
pas
un rapport.
Manquer. Ah. Voilà, nous sommes arrivés, Irène, bien à la fin de l'émission. L'heure est
déjà
venue de nous quitter. Oui, oui, mais on va se retrouver. Et on...
J'espère rapidement,
bientôt.
Vous allez me manquer, Jacques.
Dans 15 jours.
Dans 15
oui,
jours.
Moi aussi, je ne sais pas, je m'endors tous les soirs en regardant votre photo.
Voilà. ça va être aussi toujours plus.
Voilà, ça m'endort.
Ouais, toujours plus, c'est ça, c'est exact. Chloé, c'est exactement ça.
Pendant ce temps, avec Chloé, on tire la chandelle.
Plus
et je me sens un peu mal à l'aise. Viens, Stéphane, on y va.
Il est en train de dire que je suis soporifique.
On se calme, mesdames, on se calme. Alors, merci à Grégory de Paris, à sa chronique sur Zelensky. Merci à Pascal pendant ses vacances. Merci à Chloé qui est venue, mais aujourd'hui, elle ne joue pas, donc c'était mieux. Merci à toutes et à tous. C'était ma préférence, une émission d'Irène Finkel
et Jacques Lavergne.
Merci. Tiffaine, vous l'avez entendu aussi, puisqu'elle a son rôle dans cette émission. Merci Tiffaine qui était au bouton.
Et merci à tous nos fidèles auditeurs.
Et vous retrouverez bien sûr le podcast de cette émission avec tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie.
À bientôt.
Belle semaine à vous et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.